Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié chez Elsevier Masson dans sa troisième édition de 2006. Voyage en biochimie est un guide synthétique consacré au circuit de la biochimie humaine, nutritionnelle et métabolique. Bernadette Eckertsweiler et Philippe Eckertsweiler y abordent une difficulté classique de l'apprentissage de la discipline. Les voies métaboliques ne fonctionnent pas comme des chapitres isolés, mais comme un réseau d'échanges continu entre glucides, lipides et protéines. Le livre adopte donc une progression fondée sur le devenir des aliments dans l'organisme. Il part de leur arrivée par le tube digestif et conduit jusqu'aux produits finaux de leur transformation, notamment l'eau, le dioxyde de carbone, l'urée et l'énergie utilisable. Ce format bref, de 80 pages, privilégie la représentation visuelle et la mise en relation des mécanismes plutôt qu'une encyclopédie des réactions. Son objectif est de fournir une carte de lecture des grands carrefours métaboliques, en accordant une place centrale au foie et aux variations liées aux organes, à l'alimentation, au jeûne, à l'effort et au repos. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, suivre le destin des nutriments plutôt que mémoriser des voyers séparés. Le principe organisateur de voyage en biochimie consiste à suivre le parcours des substances alimentaires dans le corps. Cette perspective répond à un problème pédagogique réel, l'étude distincte de la glycolyse, du métabolisme lipidique ou du catabolisme des acides aminés peut donner l'impression que chaque voie fonctionne indépendamment. Or, les nutriments changent de forme, circulent entre les tissus et convergent vers des intermédiaires communs. En partant du tube digestif, le livre replace ainsi la digestion, l'absorption, le transport et la dégradation dans une même continuité. Le résultat final, haut dioxyde de carbone, urée et énergie, sert de repère concret pour comprendre pourquoi certains atomes sont oxydés, pourquoi l'azote doit être éliminé et pourquoi les voies de stockage ou de mobilisation sont nécessaires. Cette démarche ne réduit pas la biochimie à une succession linéaire. Elle permet au contraire de voir les bifurcations un composé issu des glucides peut être orienté vers la production d'énergie ou vers le stockage, tandis que les lipides et les protéines participent eux aussi à l'équilibre énergétique. Le livre semble donc conçu comme une carte fonctionnelle, utile pour relier les schémas de cours à la question physiologique fondamentale que devient ce qui est ingéré et selon quelles conditions l'organisme en modifie, tel est l'usage. Deuxièmement, comprendre les carrefours entre glucides, lipides et protéines, l'ouvrage insiste sur le fait que les métabolismes des sucres, des lipides et des protéines sont étroitement connectés. Cette interconnexion est l'un de ses apports les plus importants, car elle évite de traiter les grandes familles de nutriments comme des destinées chimiques et hermétiques. Dans l'organisme, la disponibilité énergétique, les besoins des tissus et l'état nutritionnel influencent l'orientation des molécules. Les glucides peuvent alimenter des voies de production d'énergie ou contribuer à des réserves. Les lipides constituent une source énergétique majeure et un mode déstockage. Les protéines, au-delà de leur rôle structural, peuvent fournir des substrats métaboliques, tout en posant le problème spécifique de l'élimination de l'azote sous forme d'urée. Relier ces ensembles aide à comprendre la logique des conversions. Sans prétendre qu'elles soient toutes équivalentes ou sans coût physiologique, la notion de carrefour est également utile pour interpréter les conséquences d'une alimentation abondante, d'un apport insuffisant ou d'une demande énergétique accrue. Les circuits prennent alors un sens, ils distribuent, transforment et économisent les ressources disponibles. Par son approche synthétique, le livre cherche moins à faire retenir chaque enzyme qu'à montrer l'agglutination des matières et de l'énergie entre voies complémentaires. Cette vue d'ensemble peut constituer une base solide avant l'étude détaillée de la régulation enzymatique et hormonale. Troisièmement, lire la régulation en cascade comme principe d'organisation métabolique. Voyage en biochimie présente la régulation en cascade comme une difficulté centrale après celle des structures moléculaires. Cette idée rappelle que connaître les réactions possibles ne suffit pas, il faut aussi comprendre pourquoi une voie est active dans une situation et ralentie dans une autre. Une régulation en cascade désigne ici l'effet en chaîne par lequel des signaux et des conditions physiologiques modifient l'activité de plusieurs étapes liées. Elle donne au métabolisme sa cohérence globale en évitant que des processus antagonistes soient mobilisés sans nécessité au même moment. Le livre replace cette régulation dans des contrastes concrets, tels que le jeûne et l'alimentation ou l'effort et le repos. Ces oppositions sont pédagogiquement efficaces parce qu'elles montrent que les flux métaboliques ne sont pas fixes. Après un repas, l'organisme doit traiter et éventuellement stocker les nutriments disponibles. Pendant le jeûne, il doit préserver l'approvisionnement énergétique des tissus en utilisant d'autres ressources. Lors de l'effort, la demande change encore selon l'intensité et les réserves mobilisables. En soulignant ces transitions, l'ouvrage donne une dimension dynamique au circuit. Le lecteur est invité à raisonner en termes de priorité physiologique, de disponibilité des substrats et de coordination entre organes. Cette approche permet de dépasser les diagrammes statiques, tout en restant adapté à un manuel court et visuel. Quatrièmement, le foie comme centre de redistribution de la biochimie humaine, le foie occupe une position centrale dans le parcours proposé par le livre, qualifié de grand monument de la biochimie humaine dans sa présentation éditoriale. Ce choix est justifié par sa fonction de carrefour entre les nutriments absorbés, les réserves de l'organisme et les besoins des autres tissus. Après l'absorption intestinale, il participe au traitement d'une grande partie des molécules apportées par l'alimentation. Il contribue à orienter les substrats vers l'utilisation immédiate, le stockage, la transformation ou l'exportation. Sa place est également déterminante pour le métabolisme azoté, puisque la production d'urée permet l'élimination d'une partie de l'azote issue des acides aminés. Le mettre au centre évite une vision dans laquelle chaque organe serait autonome. Le muscle, le rein et le foie, notamment, ont des fonctions métaboliques différentes et échangent des molécules selon les circonstances. Le livre signale aussi que les mécanismes varient entre organes, ce qui rend nécessaire une lecture tissulaire des voies. Le foie devient alors un point d'observation particulièrement utile pour comprendre les variations entre alimentation et jeûne. Cette focalisation n'efface pas le rôle des autres tissus, mais fournit un axe de lecture cohérent pour relier circulation sanguine, transformation des nutriments et maintien de l'équilibre métabolique. Dans un format concis, ce repère anatomique simplifie l'accès à un réseau autrement difficile à visualiser. En dernier lieu, un atlas de synthèse visuelle pour les études de pharmacie et de sciences, avec ses 80 pages et son format proche d'un grand cahier de schémas. Voyage en biochimie se situe davantage du côté du support de synthèse que du traité exhaustif. Les descriptions disponibles soulignent son caractère pratique et la clarté de ses diagrammes. Cette concision constitue à la fois sa fonction et sa limite. Elle est particulièrement pertinente pour des étudiants qui possèdent déjà ou acquièrent parallèlement les bases de chimie et de biologie nécessaires pour interpréter les représentations. Les schémas peuvent alors faciliter la révision en faisant apparaître les connexions entre voies, organes et états physiologiques. Un tel ouvrage est utile pour reconstruire une vision d'ensemble avant un examen ou pour identifier les points qui exigent un retour vers un cours plus détaillé. En revanche, un lecteur recherchant des démonstrations approfondies de mécanismes enzymatiques, des développements moléculaires complets ou une documentation clinique étendue devra le compléter par un manuel universitaire plus volumineux. Son intérêt spécifique ne réside pas dans l'accumulation d'informations, mais dans la hiérarchisation. Le livre sélectionne un fil directeur, le voyage des aliments, et l'utilise pour rendre lisible un domaine réputé dense. Cette stratégie explique son adéquation avec les cursus de pharmacie, de chimie et de biochimie, où la capacité à relier les notions est aussi importante que la mémorisation des réactions. Il sert ainsi de passerelle entre apprentissage fragmenté et raisonnement métabolique intégré. En conclusion, Voyage en biochimie s'adresse en priorité aux étudiants de premier cycle ou de filières de santé de sciences qui doivent acquérir une vision organisée du métabolisme humain. Il peut être particulièrement utile en pharmacie, en biochimie, en chimie appliquée aux sciences du vivant et dans les enseignements liés à la nutrition. Sa brièveté et son orientation graphique en font un bon outil de consolidation, notamment pour les lecteurs qui se perdent dans la juxtaposition des voies métaboliques étudiées séparément. Le bénéfice pratique attendu est de mieux situer les nutriments, les organes et les produits finaux dans un même réseau, absorption, utilisation, stockage, mobilisation, élimination de l'azote et production d'énergie cessent alors d'apparaître comme des thèmes indépendants. Sur le plan intellectuel, le livre entraîne à poser les bonnes questions de contexte, dans quel tissu se déroule une transformation, quel est l'état nutritionnel de l'organisme et comment une régulation modifie, tels les flux. Il se distingue des manuels plus massifs par son choix, assumé d'une carte plutôt que d'une somme. Là où un traité détaille les réactions et leurs acteurs, cet ouvrage privilégie les passages, les intersections et les repères physiologiques. Avec le foie comme centre de gravité, cette spécificité ne le remplace pas un manuel approfondi, mais lui donne une fonction complémentaire claire. Il convient surtout à ceux qui veulent relier leurs connaissances dispersées et disposer d'un support de révision visuelle, concis et centré sur la logique d'ensemble du métabolisme humain. Si vous souhaitez soutenir Bernadette Eckertsweiler, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!